Bonjour à tous. Il y a finalement une continuité entre ce qui vient d'être dit et de ce qui va être dit. On a évoqué la bienveillance de Dieu dans les chants particuliers. Cette bienveillance qui vaut mieux que tout ce que j'ai vu, ma délivrance et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. En prenant du recul avec la création de Dieu, avec sa parole, on ne peut que constater cette bienveillance. Dieu est bienveillant. Il y a quelques jours, j'ai regardé un reportage sur Arte, qui concernait en fait le déplacement des galaxies dans notre univers. Et l'astrophysicienne qui enseigne à Lyon, Hélène Courtois, émerveillée par les observations qu'elle faisait sur le déplacement des galaxies, a dit un mot qui ne pouvait pas me laisser indifférent. Elle a parlé de bienveillance. Pour elle, il y a de la bienveillance dans ce qu'elle observe, et en particulier dans le déplacement des galaxies. Alors j'ai tendu l'oreille pour savoir quelle serait la suite de son propos, mais bon, j'ai pas entendu les mots que j'attendais, mais immédiatement j'ai pensé que cette bienveillance venait de Dieu. Je vous invite à prier. Dieu, Père, tu es bienveillant envers ton peuple. Tu es bienveillant envers l'humanité, dans ta création, dans ce que tu as fait, dans ce qui nous entoure, dans ce que nous sommes. Tu es un Dieu bienveillant, aimant, présent. Tu n'es pas un Dieu fait de main d'homme. Tu n'es pas une statue. Comme cela a été dit, tu es un Dieu présent, un Dieu vivant, un Dieu qui se révèle. Et nous voulons t'en louer, Seigneur Jésus. Alors comme vous pouvez le voir, le titre de ce que je vais vous dire ce matin, c'est une voie sans issue. Une voie sans issue. Chaque être humain se trouve un jour ou l'autre dans sa vie devant une voie sans issue. Un tel endroit n'est pas forcément un lieu géographique, une route qui mène nulle part, un lieu précis où on se serait fourvoyé et perdu. Mais c'est souvent aussi d'ordre moral ou psychologique, mental ou d'orientation de vie, tout simplement une orientation de vie qui mène nulle part, certains pourraient dire. Là où j'en suis, je ne peux pas m'en sortir. Même la mort, l'issue fatale de nos vies, peut être considérée comme une voie sans issue. C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de gens dans le monde. C'est en tout cas l'orientation qui nous a été donnée par nos ancêtres en désobéissant à Dieu. Une voie sans issue. Dans les 80 prochaines années, 7 milliards de personnes vont être confrontées à cette perspective. Mais mon propos ce matin n'est pas d'aborder la question de la mort, mais plutôt de la vie alors que nous sommes dans une voie sans issue. Les Israélites se sont trouvés bien souvent dans des voies semblables, que ce soit dans le désert, après la sortie d'Égypte, dans leur conflit avec les nations environnantes, dans leur perspective post-exilique, alors même que la nation d'Israël et de Juda disparaît dans le flot des empires naissants, babyloniens, mèdes et perses, grecs, romains. plus de nation d'Israël. Que faisons-nous lorsque nous nous trouvons dans une voie sans issue? La plupart du temps, on retourne en arrière. Mais cette option n'est pas toujours souhaitable, voire pas possible. Nous allons voir pourquoi. Près de 2 millions de personnes composées d'hommes, de femmes, d'enfants, avec leurs biens, leurs charrettes, leurs animaux, firent cette expérience. Imaginons un peu cet exode de population se déplaçant pour sortir d'Égypte. 2 millions de personnes. Le contexte général est le suivant. Et il pose la question, pourquoi cet exode? On pourrait le résumer dans ces mots, fuite de l'esclavage vers la liberté. Cette population fuit sa situation d'esclave pour le pays promis de la liberté. Je vous invite à une lecture dans Exode, au chapitre 13, du verset 17 au chapitre 14, au verset 14. Exode, chapitre 13, au verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent de Succoth et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. » C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il poursuivra. » Il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions du cœur de Pharaon, de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers, et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Une voix sans issue. Mon exposé sur ce passage comportera quatre points pour notre vie personnelle. Alors, une voix sans issue, quand on marche avec Dieu, c'est le lieu vers lequel Dieu nous conduit quelquefois. C'est le lieu où Dieu nous éprouve. C'est le lieu où nous manquons quelquefois à nos engagements envers le Seigneur. C'est le lieu où Dieu combat pour nous. Une voie sans issue, c'est le lieu vers lequel Dieu nous conduit quelquefois. Par son ordre précis. Dieu donne un ordre précis à Moïse pour qu'il se dirige là où il veut que le peuple soit. C'est lui qui prend les choses en main parce qu'il connaît l'avenir. Il connaît le cœur des hommes. Il sait ce qui est le mieux pour son peuple, même si ce dernier ne le comprend pas. La sagesse humaine aurait voulu que, comme vous avez pu le voir sur la carte préalablement, aurait voulu que le plus court pour aller à Canaan aurait été de suivre la côte méditerranéenne pour atteindre la terre promise. Suivre le littoral aurait été le plus court pour aller droit sur le pays des Philistins. Dieu en décide autrement. Et pour cela, il place une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, devant son peuple. C'est lui qui dirige son peuple. On pourrait penser que Dieu se trompe. Pourquoi descendre vers le sud alors que le chemin le plus court est d'aller vers l'est directement? Mais ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que si Dieu donne une orientation, c'est qu'il connaît déjà la suite des événements. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il connaît le cœur des Israélites et aussi celui du Pharaon. L'un de ces événements est justement provoqué par Pharaon. Lui-même, en raison de son obstination, qui aurait pourtant dû être annihilée par ce qu'il il a déjà vécu avec les plaies d'Égypte, ce qui lui-même a fait vivre à son peuple d'Égypte, son pays est meurtri. Il a perdu son fils. Non, son cœur est tellement endurci qu'il continue à défier Dieu. C'est le lieu vers lequel Dieu nous conduit quelquefois selon ses propres desseins. La situation est ubuesque. Pour Pharaon, l'aubaine manifeste la stupidité de ce peuple qui fuit. C'est là un déclic pour lui. Ils sont pris au piège et nous allons les asservir à nouveau. Cette situation stratégique donne des ailes à Pharaon, qui voit dans cette erreur, qui pour lui est manifeste, l'opportunité de combattre, d'asservir et de récupérer cette main-d'œuvre bon marché. Pharaon savait que dans leur position, les Israélites ne pouvaient fuir ni à l'est, où la mer leur barrait le chemin, ni aussi au sud, où ils auraient péri dans une contrée sans ressources, ni à l'ouest, ce qui les aurait ramenés en Égypte, ni au nord, parce que c'est justement de là que Pharaon viendrait avec son armée. Par l'apparent égarement du peuple d'Israël, Pharaon s'obstine. Les Israélites sont dans un cul-de-sac, une voie sans issue. Il est dit que Dieu rend obstiné le cœur du Pharaon pour qu'il suive les fuyards. C'est ce qu'il fait. Il se lancera à votre poursuite, au verset 4. Il met les moyens. Il mobilise près de 5 à 6 000 hommes armés pour poursuivre son dessein tout humain. Ses meilleurs chars en tête. 600 chars, je crois qu'il y avait à peu près 3 soldats par char. Il y a déjà 1800 personnes, 1800 soldats sur les chars. Et cela contre des hommes et des femmes et des enfants qui sont en pleine vulnérabilité, bien qu'en ordre de bataille, comme cela nous est dit. Manifestement, Pharaon ne tient pas compte de ce que son peuple a déjà subi. Il ne peut se résoudre à abandonner la main-d'œuvre constituée par les Israélites. Et surtout, il ne pouvait concevoir ce Dieu qui pourtant l'a mis à genoux comme étant l'Éternel Tout-Puissant. Pour lui, ce Dieu n'est rien moins que un petit Dieu local, comme il y en a tant dans cette région, dans ces régions, à cette époque. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est le lieu où Dieu nous éprouve dans le chemin de l'obéissance. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. Quelles étaient ces instructions ? Dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer. Il leur invite en quelque sorte à faire un petit retour en arrière. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Séphon au bord de la mer. Les Israélites ne sont pas encore confrontés à la réalité de la démence de Pharaon. Moïse en est informé par Dieu, en le réconfortant. Cela va devenir néanmoins une épreuve pour tout le peuple qui va devoir faire confiance en l'Éternel. Le chemin de l'obéissance ne nous garantit pas contre les épreuves. Dieu peut nous éprouver dans l'obéissance. La voie sans issue est le lieu où Dieu nous éprouve. Nous devons nous réjouir de passer par toutes sortes d'épreuves ou tentations et en être heureux car cette épreuve, cette mise à l'épreuve de notre foi, produit l'endurance. Et cette endurance nous fait parvenir à l'état d'adulte, plein de force, irréprochable et enclin à accomplir des actes parfaits par notre conduite. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4. Le chemin de l'obéissance se situe dans les épreuves et dans les tentations. Ces deux mots sont deux réalités différentes par leur but. Dans Jacques, ces deux mots sont traduits par le même mot grec, mais. Si l'épreuve vient de Dieu qui l'utilise pour nous façonner et nous affermir, la tentation vient du diable et de notre mauvais cœur. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, Jacques chapitre 1, verset 12, et ne s'égare pas vers le péché, verset 15. Résister est un acte d'amour envers Dieu, verset 12. Ce n'est pas lui qui nous tente, verset 13, mais nos mauvais désirs qui nous attirent et nous séduisent, nous entraînant ainsi dans le péché et la mort. Au contraire, Dieu veut déjà nous rendre participants à sa nouvelle création. Alors résistons au mal et vainquons-le. Christ a résisté en tout point pour nous offrir un salut éternel. Son amour nous pousse à l'aimer en retour et à résister comme lui l'a fait. Il nous faut tenir bon face à l'épreuve et ou la tentation et nous sentir heureux. Je vous renvoie aux béatitudes du sermon sur la montagne que Jésus nous a enseigné. La voie sans issue, c'est le lieu où Dieu nous éprouve. En permettant à des circonstances écrasantes de nous accabler. Les Israélites auraient pu être tranquilles dans leur campement, mais Dieu montre qui est Dieu, qui est l'Éternel. Il va faire éclater sa gloire, et les Égyptiens sauront qu'il est l'Éternel. Ils ne l'ont franchement pas pris au mot avec les 10 plaies d'Égypte. Pharaon et son armée se mettent en marche. L'épreuve, la tentation et le doute pour le peuple de Dieu vont révéler ses véritables motivations et le mauvais de son cœur. Les épreuves et les tentations sont des éléments qui tendent à nous éloigner de la vérité à cause de notre mauvais cœur. Dans notre passage, la vérité est que Dieu a les choses en main. Mais devant la réalité de la situation, comment vont réagir les Israélites? Dieu veut nous perfectionner dans l'adversité. Dieu veut nous perfectionner dans l'adversité. L'épreuve vient de Dieu pour notre perfectionnement, alors que la tentation est due au péché ou au diable pour notre chute. Comment vont réagir les cœurs des Israélites? La voie sans issue, c'est le lieu ou l'endroit où nous manquons quelquefois à nos engagements envers le Seigneur, par notre incrédulité. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. On pourrait se dire que là, il n'y a pas de faute, que tout roule bien. Certes, un constat, l'ennemi est là tout proche et menace. C'est néanmoins la grande frayeur. Et il écrit vers l'Éternel. La confiance dans ce que l'Éternel a déjà fait, cette sortie d'Égypte miraculeuse, cette nuée qui précède le peuple, cette promesse d'une terre promise, tout s'évapore devant le danger. C'est l'incrédulité qui prend la place de la confiance et l'espérance. Insidieusement, le doute et l'incrédulité prennent la place. Je ne sais pas comment, nous, personnellement, nous aurions réagi en pareille circonstance, mais je ne jette pas la pierre aux Israélites. Nous nous dérobons bien facilement dans nos engagements devant l'adversité. C'est le lieu où nous manquons quelquefois nos engagements vers le Seigneur par nos plaintes. Et l'incrédulité donne lieu libre cours aux plaintes. Ils disent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait? Ne t'avions-nous pas dit, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. La situation est telle que le peuple oublie la raison de la marche dans laquelle il se trouve. Le pays promis est devant eux. Et eux, ils veulent retourner en arrière dans l'esclavage. C'est caractéristique de ce que nous vivons nous aussi. Nous oublions là où nous allons pour retourner d'où on vient dans l'esclavage. Il semble que nos vies sont en stand-by. Nous n'accomplissons pas nos désirs. Dans nos vies, il y a de l'adversité. Nous ne réussissons pas dans nos démarches de vie. Nous voulons changer. Il nous semble que le Seigneur ne nous écoute pas. Nous sommes dans une impasse, une voie sans issue. Et là, du plus profond de nos mauvais cœurs, surgit l'idée de revenir en arrière. Tout laisser tomber et retourner vers notre vie d'avant. Par le baptême en particulier, nous avons pris un engagement solennel devant l'Assemblée de suivre le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Est-ce que la moindre adversité, le moindre obstacle, nous conduirait à rejeter cet engagement? Ayons à l'esprit que Dieu nous guide et combat pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, verset 28. C'est le lieu où Dieu combat pour nous au bon moment. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans l'épreuve, dans l'adversité, Dieu nous demande non pas d'être incrédule, mais de lui faire confiance. Soyons certains qu'il tient ses promesses et que son but principal est de nous mener vers le pays promis. Et pour cela, Dieu combat pour nous. Nous sommes dans une voie sans issue. Nous sommes dans la crainte car nous ne voyons pas ce que Dieu va faire. Mais soyons sûrs, Dieu combat pour nous au moment qu'il a choisi. Ce texte nous invite à ne pas avoir peur, mais de rester tranquille. C'est le lieu où Dieu combat pour nous, en prenant les choses en main. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Autre traduction, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Dieu prend les choses en main au bon moment, il ne délaisse pas son peuple. Il ne délaisse pas son enfant qui s'attend à lui, dans les bons moments comme dans les difficultés. Deutéronome 31, au verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Voilà l'encouragement que Moïse laisse à Josué avant d'entrer dans le pays promis. L'auteur du livre aux Hébreux reprend exactement le même encouragement concernant des recommandations diverses pour la vie du chrétien. Hébreux chapitre 13, verset 5, « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Et il rajoute, « Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes ?» Les Israélites ont été placés par Dieu dans une voie sans issue. Il a répondu par un miracle. Il semble que Dieu cherche à nous placer dans des situations telles que sa gloire en jaillisse d'une manière miraculeuse par notre attitude de foi mais aussi par notre témoignage. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu, héritiers selon la promesse faite à Abraham. Alors cela nous rend confiants en ce Dieu Tout-Puissant capable de nous sortir des pires difficultés. Avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Notre vie n'est pas sans issue. La mort n'est pas une voie sans issue. Elle s'ouvre sur l'éternité. Elle s'ouvre sur l'éternité et une vie dans sa présence. Et dès maintenant, elle se tourne vers le pays promis, la Nouvelle Jérusalem, où plus rien ne sera comme avant. Ce qu'a vécu le peuple d'Israël est une préfiguration de ce que nous vivons, ce que l'Église vit. Dieu nous fait passer de l'esclavage vers la liberté, de l'esclavage du péché vers la liberté de la foi. Le juste vivra par la foi. Amen.